Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous commençons une nouvelle série qui sera intitulée « Qu'advient-il après la mort ?» C'est l'étude numéro 1. Or, cette question délicate, qu'advient-il après la mort? Pour certains, cela mérite donc cette deuxième série d'études que j'entreprends maintenant. J'en ai fait une première série qui était intitulée « Je rentre à la maison ». Et vous pouvez trouver cela sur Internet, www.bibleexplique.ch, Bible explique en un seul mot, .ch. Je rentre à la maison, ou je rentre à la maison de mon père. Chers amis, que sommes-nous chrétiens en droit d'attendre après la mort et quelle image pouvons-nous concevoir de la vie éternelle? Un questionnement récurrent où transparaît le besoin profond qu'éprouve l'homme de se représenter la mort. Capable d'inspirer la crainte ou la confiance, l'image que nous nous faisons de celle-ci conditionne la manière dont nous l'appréhendons. Certains songent plutôt douloureusement à leur trépas et d'autres l'intègrent à leur vie et mènent face à la mort certaine une existence tout à la fois sereine et consciente. Seul celui qui voit donc dans la mort l'accomplissement de sa vie et non pas seulement son anéantissement va pouvoir rendre justice à sa nature d'homme mortel qui est voué à la résurrection. Où puiser, chers amis, la certitude que la mort satisfera mes attentes et que je serai à jamais dans la gloire de Dieu, que je serai uni à Dieu, à Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé, et entouré de son amour. La tradition chrétienne recèle un grand nombre d'images évoquant l'au-delà. Elles seules nous permettent de parler de la mort et de la vie éternelle. L'âme humaine, étant sensible à ces images archétypales, nous devons nous y référer lorsque nous nous adressons aux hommes. Si nous nous contentons au mépris des intuitions de l'âme, de parler de manière purement rationnelle de la vie éternelle, eh bien nous ne pouvons toucher le cœur des hommes. Il importe donc en outre de ne pas fonder nos attentes sur une seule et même image. La Sainte Bible nous en offre un grand nombre, laissant à suspens tout ce qui, en fin de compte, demeure indicible. La philosophie parle de l'âme immortelle et de la vie qui, en vertu de celle-ci, nous attend après la mort. La Sainte Bible, quant à elle, parle de la résurrection des morts. La théologie a longtemps débattu de la compatibilité entre ces deux principes. De nombreux exégètes distinguent la résurrection de l'immortalité de l'âme, telle que l'enseigne la philosophie de Platon. Or, si, ignorant ce que la philosophie et la psychologie nous apprend au sujet de l'homme, je parle de la résurrection en termes exclusivement théologiques, mon discours ne tardera pas à devenir abstrait et incompréhensible. La résurrection accomplie par Dieu le jour du jugement devient alors un acte arbitraire auquel je peux certes croire, mais qui, étranger à la réflexion humaine, échappe totalement à ma compréhension. La mission de la théologie consiste donc à instaurer un dialogue entre le message de la Sainte Bible et la sagesse humaine, laquelle s'exprime dans la philosophie ainsi que dans la foi de toutes les religions. Si nous leur parlons de manière trop abstraite de la résurrection chrétienne, les hommes se cherchent ailleurs des images qui leur parlent davantage, et certains croient à la réincarnation, d'autres croient que tout prend fin avec la mort ou que seul le corps, peut-être, intègre le cosmos. Théologiens et exégètes doivent donc prendre en considération le fait que les hommes de tout temps ont réfléchi à la mort et à la vie éternelle. La Sainte Bible elle-même ne puise-t-elle pas ces images de la résurrection dans des modèles philosophiques? Ainsi l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ou Saint Luc, dans son évangile. Il convient donc, d'une part, de prendre au sérieux les images bibliques et de parler de la vie éternelle sans éluder la rigueur et la clarté du message de Jésus-Christ. Le spécialiste du Nouveau Testament, Klaus Berger, un Allemand, dit des textes liturgiques qui expriment en images le mystère de la vie après la mort, qu'ils décrivent l'inconnu, chose qu'ils ne peuvent faire qu'au moyen des piliers familiers de l'existence. Ils touchent les peurs et les aspirations inconscientes de l'âme humaine et apaisent la crainte qui gît dans le cœur de l'homme. Malgré la dureté qu'elles revêtent parfois, ces images archétypales sont au bout du compte des images d'espérance qui, sans refouler nos peurs, parlent du salut et d'espoir. Je voudrais d'une part me fier à la réflexion que l'homme, au travers de la psychologie et de la philosophie, consacre à la mort, d'autre part, mettre en lumière, à travers les images que nous offrent la Sainte Bible et la liturgie, ce que la mort nous réserve et ce que nous sommes, nous chrétiens, en droit d'espérer. J'ai donc conscience, ce faisant, de décrire en images ce qui, tout compte fait, échappe à notre réflexion. Les paroles de l'apôtre Paul à cet égard s'appliquent à ma démarche. Mais selon qu'il est écrit, l'apôtre Paul dit: nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Au-delà des images et des promesses que nous offre la Sainte Bible, il m'importe donc de m'interroger sur la façon dont elle conditionne notre existence ici-bas. Les images que nous concevons de la mort et de l'éternité ne sont pas destinées à satisfaire uniquement notre curiosité, mais à nous aider à vivre ici et maintenant déjà de manière plus intense et plus consciente. Elle nous incite à ne pas nous laisser dominer par la peur de mourir, laquelle appartient à la nature humaine. Les images de la Sainte Bible agissent à l'encontre de notre peur. Elle transforme celle-ci en espoir et en sérénité. Voyez-vous, les philosophes de tout temps ont réfléchi sur la mort. Platon, un ancien, très ancien philosophe très connu en son temps, eh bien Platon conçoit cette dernière comme étant la séparation du corps et de l'âme. L'âme immortelle se libère du corps où elle siégeait, soi-disant à contre-cœur, et l'âme retourne donc auprès de Dieu. Voici ce que nous dit Platon. La théologie chrétienne a emprunté à Platon l'idée selon laquelle l'âme, dans la mort, se sépare du corps, tout en interprétant différemment cette séparation. Selon le théologien Karl Rahner, l'âme, en tant que principe spirituel de la vie, établit dans la mort une relation nouvelle avec le corps. Si l'âme se sépare de ce dernier, elle demeure donc liée au monde, elle ne le quitte pas. Et c'est ainsi que Karl Rahner explique le lien qui existe entre l'âme et le fondement de l'univers. La mort rapproche donc l'âme humaine du fondement difficile à saisir et pourtant très réel, sur lequel repose l'unité du monde et au sein duquel toutes les choses d'ici-bas interagissent et communiquent entre elles. L'affirmation de la psychologie selon laquelle les défunts continuent d'agir sur ceux qui leur succèdent se voit donc ainsi confirmée. Dans la mort, notre corps cesse d'être une barrière qui nous sépare des autres et de Dieu. Il devient donc l'expression radicale de notre communion avec les choses et avec l'ensemble du cosmos. Voyez-vous, chers amis, il est très important de ne pas nous éloigner, surtout pas nous éloigner du Saint-Livre qui est la Sainte Bible. La mort, elle parachève la vie de l'homme. Elle est donc le moment unique où ce dernier, disposant pleinement de lui, décide en toute liberté de choisir ou de rejeter Dieu. Je répète parce que c'est important. Elle est donc la mort, le moment unique où l'homme, disposant pleinement de lui, décide en toute liberté de choisir ou de rejeter Dieu. Cela ne signifie pas que notre vie ici-bas est dénuée d'importance, mais que tout dépend de cette ultime décision. C'est une ultime décision à laquelle notre vie durant, nous nous préparons. Et nous ne devons pas nous persuader qu'il sera toujours temps, au moment de mourir, de nous décider peut-être pour Dieu. Car c'est ici et maintenant, dans les nombreux gestes à travers lesquels nous choisissons Dieu et le bien, que se prépare la décision que nous prendrons en toute liberté dans la mort. Aussi devons-nous toujours garder présent à l'esprit les paroles de Jésus nous exhortant à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Qui, des années durant, vit en ignorant son cœur, ne peut partir du principe que ce dernier, la mort venue, se décidera peut-être pour Dieu. Attention, c'est ainsi qu'il faut donc comprendre les paroles de Jésus. Dès que le maître de maison sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant « Ô Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous !» Eh bien, il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes, je ne vous connais pas. » Saint Luc, chapitre 13, verset 25. Étranger à lui-même, celui qui a trop longtemps vécu loin de son cœur et de son âme, ne peut plus jamais franchir la porte qui mène à l'espace intérieur de son être. La théorie qui dit cette théorie de l'ultime décision, elle ne doit pas nous donner l'illusion de la sécurité, mais nous incitons à nous décider ici et maintenant en faveur de Dieu. Je répète, la fameuse théorie qui dit qu'au dernier moment, sur le lit de mort, tu peux encore te décider. Elle nous donne l'illusion de la sécurité, mais cela nous incite à comprendre que nous devons absolument nous décider ici et maintenant, aujourd'hui même, en faveur de Dieu. L'homme n'est pas scindé en deux domaines, le corps et l'âme. Ces derniers, au contraire, forment un tout. La mort est l'instant où l'âme peut pleinement disposer du corps. Les décisions que nous prenons tout au long de notre vie sont, quant à elles, conditionnées par notre histoire personnelle, laquelle est gravée dans notre corps et dans notre âme sous la forme de structures mentales et de schémas de vie. Toutes ces restrictions disparaissent avec la mort. La personne humaine apparaît dans son unicité et prend la décision qui réunit ou au contraire, révise toutes celles qu'elle a prises de son vivant. Dans cette ultime décision, elle s'ouvre à Dieu ou elle se ferme à lui et demeure donc captive d'elle-même. La mort ne se réduit pas à la séparation du corps et de l'âme. Si elle concerne tout autant l'un que l'autre, l'esprit de l'homme ne peut être détruit. Nous devons donc nous tenir à ce paradoxe. L'âme, tout comme le corps, est touchée par la mort et pourtant elle demeure indestructible et par conséquent immortelle. Selon la Sainte Bible, ressusciter, c'est ne jamais échapper aux mains aimantes de Dieu, pas même dans la mort. Dans le même temps, l'âme désigne le moi de la personne humaine, laquelle rencontre Dieu dans la mort et s'abandonnant à son amour éternel et ressuscite ainsi en lui. Connu et être aimé de Dieu, l'homme ne peut plus s'anéantir. Si tout amour veut l'éternité, celui de Dieu ne se contente pas de le vouloir, il l'a créé et il l'est. Donc, la résurrection de la chair, cela signifie que la personne ressuscite. L'essence de l'homme, la personne, demeure. Ce qui dans cette existence terrestre où se mêlent spiritualité incarnée et matérialité pénétrée d'esprit, a mûri et continue sous une autre forme d'exister. Du point de vue de la philosophie grecque, nous pouvons dire que l'homme possède une âme immortelle. Avez-vous compris ? Ce qui, du point de vue biblique, signifie que l'homme est invité par Dieu à un dialogue éternel et partant capable de reconnaître Dieu et de lui répondre. Même si personne parmi les vivants n'a vécu la mort jusque dans son ultime conséquence, nous sommes à même de constater sa présence dans les actes de l'existence humaine et d'évoquer ce qui nous attend dans l'au-delà. Oui, nous qui aspirons à un éternel dialogue avec Dieu. Cependant, en dépit de toutes nos connaissances, nous ne devons jamais oublier le caractère limité de nos affirmations. Et nous devons donc admettre que nous ne pouvons nous approcher que en image de ce qui est indicible et tout compte fait indescriptible. Lorsque les anges de la mort auront libéré notre esprit du fatras superflu que nous appelons l'histoire, lorsque toutes les étoiles de nos idéaux dont nous avons drapé le ciel de notre existence se seront éteintes et auront disparu, lorsque la mort aura instauré un vide immensément silencieux et que, emplis de foi et d'espoir, nous aurons accepté celle-ci comme étant notre essence véritable, et quand la vie que nous avons jusque-là vécue, quelle qu'en fût la longueur, apparaîtra comme une seule et brève explosion de notre liberté, une explosion vécue au ralenti et transformant la question en réponse, le possible en réalité, le temps en éternité, la liberté offerte en liberté accomplie. Et lorsque, dans un immense effort d'une indicible allégresse, nous verrons enfin que l'infini est en réalité pénétré du mystère originel que nous appelons Dieu, de sa lumière pure et de son amour qui prend tout et qui offre tout, et lorsque nous apparaîtra alors, surgissant du mystère, le visage de Jésus le béni, qu'il nous regardera et que cette réalité concrète dépassera tout, absolument tout, ce que nous avions supposé de l'incompréhensible Dieu, eh bien c'est ainsi que je voudrais appréhender le déclin de la mort comme l'éclosion de ce qui nous attend. Voyez-vous, les pères de l'Église, ainsi que la tradition spirituelle et liturgique, se réfèrent avant tout au message de l'Écriture sainte, laquelle exprime en image ce que la mort nous réserve. Nous devons donc nous imprégner de ces images afin qu'elles transforment notre peur de la mort et de l'inconnu et nous donnent accès à la confiance et à l'espoir qui gisent au fond de nous-mêmes. Les images ne s'adressent pas seulement à notre réflexion, elles pénètrent jusque dans les strates les plus profondes de notre être. Beaucoup portent en eux des images de la mort propres à inspirer la peur. Ils refusent d'y penser, de crainte d'éveiller dans leur âme ces images menaçantes. Alors nous devons, a fortiori, contempler les images consolantes de la Sainte Bible, ni enjôleuses, ni distrayantes, elles tiennent compte de la vérité de notre âme et prennent au sérieux, tout en les transformant, les peurs profondes que la mort lui inspire. Et c'est là que réside à mes yeux la mission de la théologie, c'est de toucher à travers les images de la Sainte Bible et de la tradition les peurs et les aspirations qui habitent l'âme humaine. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a conçu la théologie par laquelle il voulait offrir aux chrétiens découragés, un nouvel espoir. Sa description du chemin de Jésus nous invite à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus, devenu pour l'éternité le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 6, versets 18 à 20. Donc, par sa mort, Jésus a traversé le voile menant au sanctuaire afin que, d'ores et déjà, nous y soyons à ses côtés. Le sanctuaire, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est à la fois le ciel où Jésus nous a précédés et un espace à l'intérieur de chacun de nous, un lieu d'espoir et de confiance que la mort ne détruit pas, mais révèle dans sa gloire véritable. La Sainte Bible offre donc de nombreuses images qui confortent notre espérance de la vie éternelle. Chacune d'entre elles possède sa vérité et ouvre une fenêtre sur le mystère de Dieu et de l'homme. Les images ne prête pas à la querelle. Il ne s'agit pas d'avoir tort ou d'avoir raison, mais d'être disposé à se laisser guider à travers elle vers les intuitions de son âme. Je voudrais donc présenter quelques-unes des images du Nouveau Testament. Ces images puissent-elles se graver, oui, dans le cœur des auditeurs et toucher les aspirations profondes qui l'habitent. Donc, voyez-vous dans les discours d'adieu qu'il prononce avant de mourir, Jésus décrit de manière admirable ce que la mort nous réserve. Jésus sait qu'il mourra sur la croix, mais il voit dans la cruauté de cet événement qui le frappe de l'extérieur un acte qu'il accomplit lui-même et qui le conduit au Père. Lui, Jésus, qui dans sa foi a triomphé de la mort avant même de mourir, veut insuffler aux disciples que nous sommes confiance et courage. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que vous aurez préparé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Alléluia. Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Ces paroles que Jésus prononce juste avant de mourir sont aussi celles qu'il prononce alors qu'il a déjà franchi le seuil de la mort et trône désormais dans la gloire de Dieu. En mourant, Jésus prépare la demeure qui nous accueillera à notre mort, et cela pour l'éternité. Ni étranger, ni obscur, cet éternel séjour, elle nous sera familière. Vivre auprès de Dieu et en Dieu, c'est une aspiration qui nous est absolument familière. Toute demeure terrestre où nous nous sentons protégés fait naître en nous le désir ardent d'y séjourner pour toujours. Donc en mourant, Jésus prépare cette demeure pour nous, pour vous, et il la part de son amour que l'évangéliste Jean assimile à de l'amitié. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait pour vous comme pour moi. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. L'image de la demeure est également présente dans le judaïsme. En trépassant, Jésus prépare donc cette demeure. Après sa mort, il reviendra afin que nous soyons là où il est maintenant. Ceci concerne d'une part l'instant présent, ressuscité, Jésus revient donc parmi nous afin que nous habitions dans sa maison, afin que nous soyons là où il est. Ainsi, lorsque nous prions ensemble ou que nous célébrons la Sainte Cène, mais cette unité de lieu, d'autre part, trouve son achèvement dans la mort. Lorsque nous mourons, Jésus vient, il vient pour nous chercher afin que nous soyons à jamais là où il est. La place qu'il nous a préparée est donc le lieu où nous pouvons séjourner avec lui et auprès du Père dans l'éternelle demeure. D'une certaine façon, le sens que Jésus donne à sa mort s'applique à celle des êtres auxquels nous lie l'amitié et l'amour. Car en mourant, ces derniers emportent, pour ainsi dire, une part de nous dans l'éternelle demeure. Tout ce que nous avons partagé, les joies et les peines, ainsi que l'amour et le chagrin, les conversations que nous avons échangées et l'intimité que nous avons partagée. Pour terminer, chers amis, pour terminer notre étude, illustrons cette idée par une image toute simple. Je traverse un pré et me retrouve devant un ruisseau. Afin de pouvoir l'enjamber plus facilement, je commence par jeter mon sac de l'autre côté. Les défunts avec lesquels j'ai partagé ma vie ont, en quelque sorte, franchi le seuil de la mort en emportant mon sac. Il me sera donc d'autant plus facile, ma mort venue, d'atteindre l'autre côté du ruisseau. Là m'attendra mon sac et tout ce qui fut important dans ma vie. Les défunts, pour ainsi dire, ornent l'éternelle demeure de ce qu'ils ont emporté de moi au royaume des morts. Beaucoup de personnes âgées ont ainsi le sentiment qu'une part d'eux-mêmes franchit ainsi le seuil de l'éternel séjour chaque fois qu'un ami, qu'un être proche les précède dans la mort. Nous arrêtons ici notre première étude sur cette deuxième série pour aujourd'hui, et je voudrais, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur par l'Esprit Saint de vous transmettre quelques engagements, des enseignements si vous voulez, et quelques encouragements. C'est donc en quelque sorte pour vous aider. Bénissez même vos ennemis. Appelez souvent la bénédiction de Dieu sur les autres, sur ceux en particulier qui vous contredisent et s'opposent à vous, ou sur ceux que vous désirez aider. Faites-le de tout votre cœur, désireux, vraiment, de voir se répandre à flot sur eux la bénédiction, la joie et le succès. Remettez-vous tout cela à Jésus pour les assurer. En ce qui vous concerne, contentez-vous de leur souhaiter sincèrement joie et bénédiction. Or, vous en êtes encore à demander qu'ils soient repris et peut-être corrigés. Mais c'est le Seigneur qui fera tout cela si vous lui soumettez ce problème dans la prière. Aimez donc, je le répète, aimez encore et aimez toujours. L'amour vous fera surmonter toutes vos difficultés. L'amour vous qualifiera pour tous les succès que Dieu vous réserve. Dieu, en qui le mal perd toute réalité, Dieu, en qui le bien, bien au contraire, trouve sa réalité, Dieu est amour. Quand vous vous aimez les uns les autres, vous laissez Dieu agir dans votre vie. Or, laisser Dieu agir dans sa vie, c'est permettre à cette vie de répandre tout ce que l'on peut manifester d'harmonie, de beauté, de joie et de bonheur. Maintenant, nous allons terminer donc par la prière. Mais je voudrais vous dire une strophe d'un très ancien cantique qui dit ceci. Dieu tout-puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce, éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face, que ton esprit, ô Jésus-Christ, habite dans notre âme, que ton amour, nuit et jour, l'embrase de sa flamme. Prions. Ô notre Dieu, Père des Lumières, duquel procède toute grâce et tout don parfait, ouvre nos cœurs à la lumière de ta grâce, comme tu ouvris à la clarté du jour les yeux de cet aveugle. Que la sainte parole que tu nous as donnée soit réellement une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Ô Jésus-Christ, qui est la lumière du monde et qui, en venant au monde, éclaire tout homme, sois la lumière de chacun de nous. Éclaire les yeux de notre entendement, afin que nous puissions regarder aux merveilles de ta grâce, ô notre Sauveur. Et puisque tu as daigné commencer ta bonne œuvre en nous, achève-la toi-même. Nous te remettons nos cœurs et nos âmes, remplis-les de ton amour et de ta présence ineffable, afin que nous puissions marcher comme des enfants de lumière et travailler pendant qu'il fait encore jour, avant que la nuit vienne dans laquelle personne ne peut travailler. Esprit de lumière et de vie, qui a voulu faire de nous tes temples, fais-nous comprendre la vocation glorieuse à laquelle nous sommes appelés. Te posséder au-dedans de nous, Dieu trois fois saint, devenir tes enfants, tes imitateurs, en attendant que toi, Seigneur, tu nous combles de ta gloire dans le ciel. Fais-les toi-même en nous, par ta grâce, et que cette grâce puisse reposer sur nous et sur tous les nôtres. Cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série très importante. Au revoir, mes très chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.